programme. Et à la prochaine.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du mardi 10 mai 2022 avec vous Eric Manilakiza
et Yakuba Ouidraougou. Voici d'abord les sommaires.
Génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, ouverture à Paris du procès d'un ex-préfet Dogi Kongoro pour sa participation présumée.
Face à l'urgence, la COP15 contre la désertification a débuté hier à Abidjan.
Au Zimbabwe, le gouvernement suspend le crédit bancaire.
Le président Biden réactive pour l'Ukraine un dispositif de Roosevelt en vue d'accélérer l'envoi à Kiev d'équipements militaires.
Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
28 ans après le génocide au Rwanda, la justice française juge une quatrième affaire avec le préfet Dogi Kongoro, Laurent Boutibaruta, comparé devant les assises de Paris pour sa participation présumée à l'extermination des Tutsis en 1994. Le point avec Claire Moingibourg.
Le procès, prévu pour durer plus de 2 mois, s'est ouvert dans l'après-midi avec une première offensive de la défense. Les avocats de l'ancien fonctionnaire ont demandé l'annulation des poursuites initiées il y a 22 ans, jugeant ces délais déraisonnables et attentatoires aux droits de la défense. La cour d'assises a rejeté cette demande. Réfugié en France depuis 1997, Laurent Boutibaruta conteste les accusations. Il est le plus haut responsable jamais jugé en France pour des crimes liés au génocide au Rwanda en 1994. Préfet de Gikongoro de 1992 à juillet 1994, il est accusé d'avoir encouragé et ordonné des exécutions de Tutsis venus s'abriter à l'école technique de Murambi pour échapper au massacre. Le 21 avril 1994, des dizaines de milliers de Tutsis sont exécutés à la machette, à la grenade et au fusil par des militaires et des miliciens Hutus. Sur quelques 50 000 personnes réfugiées dans cette école, seules 34 ont survécu. D'ailleurs, des rescapés de cette attaque doivent témoigner à ce procès. Laurent Boutibaruta risque la réclusion à perpétuité.
Une coupure de câble due à un sabotage a entraîné lundi pendant plusieurs heures un ralentissement du train express de Dakar et un retard d'usagers avant un retour à la normale dans la soirée, a appris l'AFP auprès des autorités.
Des câbles destinés notamment à la communication Internet ont été sectionnés à hauteur de la forêt classée d'Ombao, une banlieue de Dakar traversée par le TER, a précisé le directeur général de la Saint-Air, la société de patrimoine du train express régional, détenue à 100% par l'État sénégalais.
Au Togo, le gouvernement procède à une nouvelle hausse des prix des produits pétroliers dans les stations-service à partir de ce mardi 10 mai 2022.
La dernière hausse des prix des produits pétroliers est intervenue le 29 mars dernier. Le gouvernement a invoqué le prix du baril du pétrole sur le marché international pour justifier cette hausse.
Le gouvernement du Zimbabwe est sous le feu des critiques depuis samedi pour avoir imposé un gel des prêts bancaires, une décision qui risque, selon les milieux d'affaires, de favoriser le développement d'un système bancaire parallèle et de mettre en péril la reprise économique d'un pays en plein marasme. Les détails de Nathalie Dash.
Le président Emmerson Mnangagwa a sommé les banques de suspendre leurs activités de crédit dans le cadre d'un plan de redressement du pays, miné par une inflation galopante, nourrie par la guerre en Ukraine et l'envolée des prix des matières premières. Pour juguler l'inflation, la Banque centrale du Zimbabwe a relevé début avril son principal taux directeur de 60 à 80%, soit le taux le plus élevé au monde. Selon l'exécutif, le gel des crédits bancaires vise à mettre un coup d'arrêt à la spéculation contre la devise zimbabwéenne qui se négociait ces derniers jours sur le marché parallèle à près de 400 dollars zimbabwéens pour un dollar américain, soit plus du double de son taux officiel. La Chambre de commerce et d'industrie a fustigé la décision de l'exécutif qui, selon elle, légitime un système bancaire parallèle à des taux usuraires. Les principales banques ont entamé des discussions hier avec la Banque centrale.
Quatre touristes sud-africains sont portés disparus depuis 3 jours dans le canyon de la rivière Fish en Namibie, l'un des plus vastes du monde, a annoncé lundi la compagnie touristique nationale Namibia Wildfire Wildlife Resort.
Ce n'est pas la première fois que des touristes se perdent dans ce canyon de 160 km de long pour 27 km de large, avec une profondeur allant jusqu'à 550 mètres située près de la frontière sud-africaine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a signé hier devant les journalistes une loi permettant d'accélérer l'envoi à l'Ukraine d'équipements militaires, réactivant ainsi un dispositif datant de la Seconde Guerre mondiale. Le point avec Bagassi Koura.
Les Ukrainiens se battent tous les jours pour leur vie, a déclaré Joe Biden dans le bureau ovale, ajoutant que ce combat coûte cher, mais céder face à l'agression serait encore plus coûteux. De Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act de 2022 est basé sur un programme de la Seconde Guerre mondiale destiné à aider l'Europe à résister à Hitler. Il a été soutenu par presque tous les membres du Congrès américain, à l'exception de 10 élus de la Chambre des représentants qui ont voté contre, note la Maison-Blanche. L'exécutif américain signale par ailleurs que le texte a été promulgué alors que la Russie marquait lundi l'anniversaire de la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie. Depuis le début de l'invasion russe le 24 février, l'administration Biden a apporté une aide militaire de quelque 3,8 milliards de dollars à Kiev.
Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait tenir jeudi une nouvelle réunion publique sur la guerre livrée par la Russie à l'Ukraine. Au vu de la dégradation continue de la situation humanitaire, ont indiqué lundi des diplomates demandés par la France et le Mexique. Cette session sera la 16e du Conseil de sécurité depuis l'invasion russe du 24 février.
Malgré la guerre en Ukraine, la Chine reste la priorité de Washington en matière de politique étrangère. Le président américain accueille cette semaine les dirigeants de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Le point avec Abdourahman Dia.
Joe Biden l'a dit à plusieurs reprises, la Chine, adversaire numéro un des États-Unis, est la priorité de sa politique étrangère. Accaparé depuis des mois par la guerre en Ukraine, les diplomates américains tentent aujourd'hui de remettre l'accent sur l'Asie. Jeudi et vendredi, le sommet de l'ASEAN dans la capitale américaine a pour but de réaffirmer les intérêts des États-Unis dans cette région au cœur de nombreuses tensions avec Pékin. Une semaine plus tard, Joe Biden doit se rendre au Japon et en Corée du Sud. À Tokyo, il participera aussi à un sommet avec les autres dirigeants du Quad, ce forum qui réunit l'Australie, l'Inde et le Japon autour des États-Unis et qui est largement perçu comme une alliance pour contrer les ambitions de la Chine. Ce voyage permettra au président américain de rencontrer tous ses principaux alliés en Asie-Pacifique. Quant à son secrétaire d'État Anthony Blinken, il doit bientôt prononcer un grand discours sur la politique américaine face à Pékin, prévu la semaine dernière mais reporté car il a été testé positif au Covid-19. L'ombre de l'invasion russe planera sur tous ces rendez-vous, mais l'équipe de Joe Biden espère s'en émanciper pour remettre sur la sellette l'importance stratégique du danger que constitue, selon Washington, la Chine.
La reine Elisabeth II a fait savoir lundi soir qu'elle serait remplacée par son fils le prince Charles pour le traditionnel discours du trône au Parlement britannique mardi en raison de ses problèmes de mobilité.
C'est la première fois en près de 60 ans que la monarque manque ce rendez-vous solennel de la démocratie britannique où elle lit le programme du gouvernement lors d'une cérémonie en grande pompe. Elle en avait été absente en 1959 et en 1963 quand elle était enceinte.
C'est aussi la première fois qu'elle s'y fait remplacer par le prince de Galles, héritier de la couronne, un signe du transfert progressif de ses tâches à son fils aîné, qui la représente déjà à l'étranger depuis plusieurs années.
Le nouveau président sud-coréen Yoon Suk-yeol a appelé mardi la Corée du Nord à la dénucléarisation complète, affirmant que l'arsenal atomique de son voisin constitue un danger pour la sécurité mondiale.
Dans son discours d'investiture, M. Yoon a affirmé que si Pyongyang s'engage véritablement dans un processus de dénucléarisation complète, il sera prêt à présenter un plan audacieux pour relancer l'économie nord-coréenne.
Les États-Unis ont demandé une réunion d'urgence publique du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Corée du Nord après ses derniers tirs de missiles balistiques qui se tiendra mercredi à 19h temps universel, a-t-on appris lundi de sources diplomatiques.
Au moins 43 prisonniers sont morts lors d'affrontements entre bandes et rivales lundi dans une prison d'Équateur, d'où une centaine d'autres détenus ont pu s'évader à la faveur des violences. Et le bilan de la violente explosion accidentelle au gaz qui a soufflé vendredi l'hôtel Saratoga de la Havane est passé lundi à 40 morts, selon le ministère de la Santé. En fin d'après-midi, le bilan était de 54 personnes blessées, dont 18 sont encore hospitalisées.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Mohamedou Oumfa.
Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a sommé samedi les banques de suspendre leurs activités de crédit. Une décision qui vise, selon l'exécutif, à freiner la spéculation de la devise zimbabwéenne qui se négociait ces derniers jours sur le marché parallèle à près de $400 zimbabwéens pour $1 américain, soit plus du double de son taux officiel. Cette décision va favoriser le développement d'un système bancaire parallèle et mettre en péril la reprise économique du pays, ont mis en garde lundi les milieux d'affaires. Les pays de l'Afrique centrale veulent élaborer avant le troisième trimestre 2022 une directive communautaire relative à l'installation et au fonctionnement des postes de contrôle sur les corridors routiers de la sous-région. Selon Investir au Cameroun, cette décision survient après plusieurs mouvements d'humeur des transporteurs qui dénoncent les tracasseries sur ces corridors, notamment ceux reliant Douala au Cameroun, N'Djamena au Tchad ou Bangui en RCA. La compagnie chinoise Sinosteel Corporation a décroché un contrat d'exploitation des minerais de fer à Loubé, dans le sud du Cameroun. Le contrat signé vendredi avec le gouvernement camerounais prévoit un investissement de plus de $700 millions sur 50 ans. Selon l'agence Chine Nouvelle, Sinosteel prévoit d'extraire 10 millions de tonnes par an de minerais à 33%, puis de les enrichir pour produire 4 millions de tonnes de concentré de haute teneur en fer à plus de 60%.
Nous passons directement à votre page des sports ce matin. Nanit Sylvanit à l'année avec vous. Bonjour Nanit.
Bonjour Eric. Bonjour à tous. Les Aigles du Mali ont un nouvel entraîneur, Eric Sekouchel, 44 ans, ancien international, dont la principale mission sera de conduire la sélection malienne aux demi-finales de la CAN 2023. Je crois que j'ai l'expérience pour relever ce nouveau défi. Je suis venu avec un fort désir de redonner à mon pays et j'ai honnêtement senti que l'opportunité était trop belle pour la laisser passer. C'est définitivement un grand défi et j'aime me mettre au défi, a confié l'ex-défenseur de Lens à BBC Sport Africa. En Tunisie, l'étoile du Sahel, qui a du mal à digérer la lourde défaite 2-4 à domicile contre Monastir le 7 mai, se sépare de son entraîneur Lassad Jarda avec une résiliation du conflit à l'amiable. Mouez Gazé et Shaker Zouaghi assurent l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau coach. En République démocratique du Congo, l'association sportive Simba a un nouveau bureau, présidé désormais par Fifi Masuka, vice-gouverneur du Lualaba, selon l'Assemblée générale extraordinaire tenue samedi par le club congolais. Madame Masuka, qui remplace Jacques Massengo, est secondée par Kuti Chomba, vice-président. Terminons par l'UEFA qui réunit son comité exécutif ce mardi et son congrès annuel demain mercredi à Vienne dans l'espoir de finaliser la réforme de la Ligue des Champions après 2024, censée allécher les diffuseurs avec 4 clubs additionnels et 100 matchs supplémentaires. 2 points sont acquis, le passage de 32 à 36 clubs en 2024-2025, ainsi que le remplacement des 8 poules de 4 clubs par un mini-championnat inspiré des tournois d'échecs au sein d'un tableau unique, tout comme la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. en étirant cette première phase, l'objectif est de contenter à la fois les diffuseurs avec 225 matchs au total au lieu de 125 aujourd'hui, les clubs assurés de revenus de billetterie plus élevés, même en cas d'élimination précoce, et enfin les téléspectateurs en quête d'affiches prestigieuses.
C'était les sports avec Nanit Sylvani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manilakiza. Place au dossier du jour. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, abrite depuis hier la COP 15, la conférence des parties des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Une dizaine de chefs d'État étaient présents à l'ouverture. 5000 personnes venant de 196 pays participent. Le thème de cette année, terre, vie, patrimoine, dans un monde précaire vers un avenir prospère. Des détails avec Delphine Bowies, notre correspondante à Abidjan.
À l'ouverture de la COP 15, le président ivoirien a affirmé que les travaux suscitent de grands espoirs au sein des peuples et il faut aller vite. Alassane Ouattara.
Selon les données disponibles, la désertification et la sécheresse affectent 52% des terres agricoles. Elles causent la perte de 12 millions d'hectares chaque année. Elles affectent directement 74% des personnes pauvres dans le monde. Le désert progresse de 5 kilomètres chaque année dans les zones semi-arides d'Afrique de l'Ouest. Agissons vite, agissons ensemble pour donner une nouvelle vie à nos terres.
Auparavant, Ibrahim Thiou, le secrétaire exécutif de la COP 15, a fait remarquer que la sécheresse porte un visage humain.
La sécheresse n'est pas seulement un déficit pluviométrique. La gestion des terres concerne autant l'agriculture que l'économie. Les risques économiques sont sévères. Jusqu'à la moitié du PIB mondial pourrait être affecté à long terme. Au-delà, nos études ont aussi montré que les pertes de terres fertiles entraînent des conséquences sur la santé humaine, amplifient les migrations. Elles provoquent pauvreté, troubles sociaux et insécurité. Mais il y a espoir.
Quand la vice-secrétaire générale de l'ONU affirme « Nous devons lutter contre la désertification au lieu d'investir dans les solutions », Madame Aminata Mohamed, dans des propos traduits par l'un des interprètes des séances.
Nous devons prendre conscience du fait qu'il y a péril en la demeure. Nous pouvons venir en aide aux pays qui en ont le plus besoin. Nous devons investir pour lutter contre la désertification et la dégradation des terres. Ce sont des investissements extrêmement utiles. La moitié du PIB du monde, la moitié de l'approvisionnement en grains dépend de notre capacité à lutter contre la dégradation au lieu d'investir dans des solutions.
Porte-parole de l'ONG internationale Les Peuples Autochtones, Hindou Oumarou se veut pragmatique.
Il est très important d'être concret. Nous avons plus que jamais besoin de la sécurité alimentaire et nous ne pouvons pas les trouver sans investir sur les sols.
En outre, Patricia Kombou, agricultrice dans une ferme rurale, au nom des jeunes, a fait ce plaidoyer.
Les jeunes sont un atout précieux, mais vous devez nous mettre au cœur de la mise en œuvre de vos politiques. Nous vous demandons de nous aider à passer de la rareté à la prospérité. Vous devez nous aider à bâtir un environnement durable et créer des emplois grâce aux terres.
Aboulaye Charid, responsable de la 76e Commission des Nations Unies, d'indiquer « Petit, tout comme grand, nous n'avons pas d'autre choix ». Puis, s'en est suivi le sommet des chefs d'État avec l'initiative d'Abidjan et le focus du genre. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
La justice française juge sur son territoire une quatrième affaire, 28 ans après le génocide au Rwanda. L'ex-préfet de Gikongoro, Laurent Boutibaruta, a commencé à comparaître depuis hier devant les assises de Paris pour sa participation présumée à l'extermination des Tutsis en 1994. Jean Damascène Manichimwe s'est rendu sur les lieux du crime à Murambi. Voici son reportage.
Une brise légère et les sons des oiseaux qui l'accompagnent sur la colline de Murambi, au sud du Rwanda, où est érigé un mémorial du génocide des Tutsis. Les massacres des milliers de Tutsis sur cette colline en 1994 figurent parmi les faits reprochés à Laurent Witibaruta, un ancien préfet qui comparait en France pour crimes de génocide, complicité de génocide et crimes contre l'humanité. Les rescapés du génocide des Tutsis mettent en cause l'ancien préfet dont les massacres des milliers de Tutsis qui s'étaient réfugiés dans divers endroits de l'ancienne préfecture de Gikongoro au sud du Rwanda. Stanley Mugabarigira dirige le mémorial de Murambi, où plus de 50 000 Tutsis ont été tués en
1994.
Sous l'ordre de Laurent Witibaruta, qui détenait tous les pouvoirs, les Tutsis réfugiés au diocèse de Gikongoro ont été refoulés à Murambi. Et pour tromper la vigilance, les gendarmes ont été mobilisés comme pour les protéger, comme cette colline de Murambi est entourée par les hautes montagnes qui la surplombent. Ils ont trouvé en elle un lieu stratégique qui rendrait facile les tueries et priverait aux victimes toutes les chances de pouvoir s'échapper. Arrivés ici, les autorités ont d'abord coupé tous les tuyaux qui conduisaient l'eau ici à Murambi et comme c'est Tutsis ne mangeaient pas, c'était une façon de les affaiblir davantage en évitant toute résistance face aux tueurs.
La Cour d'assises de Paris doit se pencher surtout sur ce système principal de massacre où l'implication de Laurent Witibaruta est évoquée. L'accusation indique que le suspect a participé à plusieurs réunions de planification de massacre et convoquées par Laurent Witibaruta lui-même. Les allégations réfutées par la défense de l'ancien préfet. 28 ans après les faits, les rescapés de Nyamagabe se déclarent soulagés, étant donné que depuis des années avant 1994, les coupables des massacres des Tutsis vivaient dans une impunité totale. Foyib Mukamudenge est l'une de ces rescapés.
Nous sommes ravis de sa comparution. La justice va nous être rendue. L'impunité a plané pendant longtemps sur les massacres des Tutsis. Même si l'accusé venait ici, on serait prêt à témoigner contre lui. Par ses actes, nous sommes devenus des veuves. Il y a eu des orphelins, mais nous n'avons pas cédé tout de même au désespoir.
La cour d'assises devra auditionner une centaine de témoins tout au long de ce procès qui s'étendra jusqu'au 12 juillet prochain. Laurent Witibaruta, 78 ans, est le cinquième Rwandais à être poursuivi en France pour génocide de Tutsis. Jean Damasen Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
Le 9 mai marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 par la défaite de l'Allemagne nazie, du Japon et du fascisme italien. L'Afrique a beaucoup contribué à la libération de l'Europe. Ils étaient appelés tirailleurs sénégalais parce que le premier régiment a été créé au Sénégal. Nanit Sylvani Talani a joint le professeur Mohamed Mbodj, professeur d'histoire à Manhattanville College à New York aux États-Unis.
Dans la Deuxième Guerre mondiale, tout d'abord, il faut noter que dans l'attaque des Allemands contre la France en 1939 et en 1940, il y avait quelque chose comme 200 000 soldats noirs dans l'armée française. Entre l'armistice de 1940 et le débarquement des Alliés sur les côtes normandes en 1944, l'essentiel de l'armée française était d'une manière absolue, dans sa très grande majorité, constituée de soldats noirs. À la défaite française, la plupart de ces soldats ont été emprisonnés comme prisonniers de guerre. Certains ont été libérés et certains de ces soldats ont été rapatriés en Afrique. Certains ont été conservés en métropole.
Il y a eu aussi des massacres qui ont visé les anciens combattants africains.
Il y a des massacres perpétrés par les Allemands. On ne sait pas trop les chiffres, mais ce sont des milliers qui ont été massacrés par les Allemands. Il y a aussi, après la fin de la guerre, le fameux événement de Charoï en novembre 1944, des soldats noirs qui demandaient simplement à ce qu'on leur paye ce qui leur était dû, ont été massacrés et accusés de mutinerie.
C'était la puissance coloniale qui les avait massacrés?
Oui, ce dernier massacre de novembre 1944, c'est effectivement la France.
Où en est-on avec les requêtes concernant la reconnaissance et l'indemnisation des anciens combattants africains par la France?
Juste après la guerre, il y a eu une sorte d'élan de reconnaissance. Comme d'ailleurs, après la première guerre, il y a eu des monuments, des cimetières qui ont été décorés. Et donc, on avait plus ou moins reconnu, accepté que des soldats noirs étaient morts pour la France. Mais par la suite, ces monuments, ces tombes ont été laissés en désuétude. un peu comme pour laisser l'histoire faire son œuvre, ensevelir ces témoignages de la bravoure de ces Africains sous les décombres de la ruine du temps. La deuxième chose, c'est que à la démobilisation générale, les Français avaient décidé de payer les soldats africains, selon d'ailleurs des régimes de paiement qui étaient moindres que le Tamarac métropolitain, dans les années 2000, où la justice française d'ailleurs a forcé la France à reconnaître que ces soldats méritaient des pensions à la hauteur plutôt de leurs collègues métropolitains, et que donc il fallait revaloriser tous ces droits et les verser à ces soldats. Malheureusement, ce qui s'est passé dans l'exécution de cet ordre de justice, la France a mis une sorte de condition, à condition qu'ils se manifestent. Donc c'est-à-dire que les soldats qui étaient morts entre-temps ne pouvaient pas se manifester, ce qui fait que cette mesure est restée plus symbolique que réellement effective, et disons que dans la proportion de ces centaines de milliers de soldats qui s'étaient battus pour la France, peut-être une poignée, quelques milliers seulement ont eu leur pension d'invalidité, d'action militaire, etc., revalorisée dans les années 2000.
C'était le professeur Mohamed Modj, professeur d'histoire à Manhattanville College à New York.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Kenya a adopté une loi en 2021 qui donne aux réfugiés un meilleur accès à l'éducation et à l'emploi, alors que quelques-uns profitent des avantages de cette loi. Beaucoup sont confrontés au manque d'informations et de financement. La fermeture des camps dans le pays, qui abrite un demi-million de réfugiés, est prévue d'ici fin juin. Juma Madjanga est allé à leur rencontre. Le récit est de Nathalie Barge.
Ajak Jokajak parcourt des dossiers par un après-midi pluvieux à Nairobi. Ce Sud-Soudanais de 28 ans, qui a grandi dans le camp de Kakuma dans le nord du Kenya, n'aurait jamais imaginé qu'il travaillerait un jour comme stagiaire dans un grand cabinet d'avocats.
Avant, il fallait obtenir un permis de recherche d'emploi avant de commencer la recherche. Vous deviez aussi obtenir un permis de stage avant de commencer votre stage. Maintenant, cela signifie que vous n'avez pas besoin de procédures supplémentaires, mais seulement de vos qualifications.
La loi sur les réfugiés du Kenya, promulguée l'année dernière, est entrée en vigueur en février. Jamine Kouzouania, responsable de plaidoyer au Comité international de secours.
Le plus gros problème que les réfugiés ont eu dans ce pays depuis 1991 était la politique en vigueur selon laquelle ils sont domiciliés pour vivre dans des camps particuliers. Et ce que nous voyons dans la loi sur les réfugiés de 2021, c'est qu'elle tend vers la suppression de cet aspect.
La militante des droits humains Adieu Achoul estime que la nouvelle loi aidera cette communauté vulnérable à bien des égards, mais qu'il reste encore beaucoup à faire pour sensibiliser les réfugiés.
Les politiques ne sont que des théories, mais pas la pratique. Donc, la plupart du temps, oui, ils signent des lois, mais ils n'expliquent pas ces politiques aux réfugiés. Rien n'est fait pour qu'ils aient accès à l'information, pour qu'ils sachent que ces politiques ont été adoptées et ce qu'elles disent, afin qu'ils puissent commencer à agir en conséquence.
Pour Ajak Jokajak, la nouvelle loi ne pouvait pas tomber à un meilleur moment. Après avoir été retenue en raison de son statut de réfugié, elle lui a permis d'être admis sur la liste des avocats à la Haute Cour du Kenya et d'être promu au poste d'avocat à part entière.
Cela a permis aux réfugiés d'accéder effectivement à certains services sans être limités, et c'est pourquoi vous voyez que certains d'entre nous ont beaucoup d'espoir.
La nouvelle loi fait partie du programme d'intégration des réfugiés du gouvernement kényan, alors qu'il se prépare à fermer les camps d'ici la fin du mois de juin. Jamine Kouzouania.
Le gouvernement devra revoir les délais qui sont actuellement en place, mais aussi prendre connaissance dès maintenant de la loi sur les réfugiés de 2021 et commencer à repenser la manière dont nous devons les gérer dans le pays. Comment faire la transition pour ces réfugiés? Parce qu'il faut une feuille de route vers des solutions.
Bien que la nouvelle loi puisse atténuer les obstacles afin d'accéder à l'éducation et l'emploi, les experts affirment qu'il faudra plus de temps pour relever l'ensemble des défis auxquels font face 1,5 million de réfugiés au Kenya.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Fatou Kalala Ali Massi. Au micro, Eric Manirakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24. Un seul site internet voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée. À l'écoute.